Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous confions chacun à la Bienheureuse Vierge Marie, puisque l'enseignement de ce soir qui nous voit réunis va parler de ces mots que la Vierge a utilisés lorsque le 25 mars 1858, elle a enfin répondu à la question de Sainte Bernadette, à savoir qui elle était. Elle répond en patois, « Que soyera Immaculada Conception, moi je suis l'Immaculée Conception. » Voilà deux mots qu'il nous faudra éclairer, puisse la Bienheureuse Vierge Marie nous aider justement eh bien, à avoir les lumières nécessaires pour comprendre le mystère de toute son existence. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les grands saints, y compris le Seigneur, ont plusieurs fêtes dans l'année. Le Seigneur, on le sait, sa naissance à Noël, qui est précédée du temps de l'Avent dans lequel nous sommes, 4 semaines pour nous préparer à sa venue. Le temps de l'Avent ne nous prépare pas seulement à quelque chose qui s'est déjà passé aux environs de l'an zéro, la naissance de notre Seigneur Jésus le Christ. Au contraire, le temps de l'Avent, en latin, le mot veut dire adventus, ce qui doit advenir. Que doit-il advenir? Le Seigneur est déjà venu pour nous sauver. Il a offert sa vie sur le bois de la croix aux environs de l'an 33. La même année, il ressuscite et il remonte au ciel. C'est le fameux jeudi de l'Ascension, où le Seigneur est remonté à la gloire du ciel. Il a envoyé l'Esprit-Saint et avec lui s'est ouvert le temps de l'Église. Le temps de l'Avent nous rappelle que nous avons dans la vie chrétienne une direction, le retour du Christ dans la gloire au dernier jour. Ça veut dire que le temps de l'Avent, ce n'est pas seulement préparer la crèche, le sapin, les fêtes de Noël, nous rappeler que Jésus est né. C'est déjà très important de se rappeler que Dieu est venu prendre notre nature humaine pour venir nous sauver, mais qu'il doit également revenir. Voilà ce que le chrétien attend, le retour du Christ. Soit le Seigneur revient et il nous trouve parmi les vivants, soit je meurs et je me retrouve face à Dieu. Ce qui veut dire qu'en fait, toute notre vie, nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Ben, il en a été de même pour la Bienheureuse Vierge Marie. La Bienheureuse Vierge Marie, comme chacun d'entre nous, elle vient de Dieu. Cependant, Dieu a eu pour elle, et surtout par amour pour nous, un projet bien particulier. Puisque le bon Dieu voulait venir ici-bas sur la terre pour venir nous sauver de 3 choses, nous sauver du péché, nous sauver de la conséquence du péché qu'est la mort, et nous délivrer du mal. Pourquoi venir nous en sauver? Parce qu'au moment de la création, lorsque le bon Dieu a créé l'ensemble de l'univers, pour nous, parce que nous sommes au sommet de la création, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, il a créé tout cet univers pour nous, pour que nous soyons ici-bas, pour l'aimer et le servir. Le premier homme et la première femme, nos premiers parents, disons-nous, Adam et Ève, ont donc été créés avec une grande intimité vis-à-vis de Dieu. Il nous faut pour nous user d'imagination. Pourquoi ? Parce que Adam et Ève, ayant été créés en dehors du péché, n'ayant jamais donc commis le mal, n'en ont même pas l'idée. Ça veut dire qu'ils sont vraiment créés dans la bonté et dans l'amour de Dieu. De même, avant le péché de l'homme et de la femme, eh bien, il y a également aussi une très grande harmonie avec les animaux. Dans le temps de l'Avent, on entend souvent les prophéties d'Isaïe, nous rappelant, à la fois l'harmonie du commencement, mais aussi ce qu'il y aura au dernier jour, la grande harmonie avec l'ensemble de la nature, y compris des animaux. On a entendu, il n'y a pas longtemps dans les lectures, de nous dire eh bien, que le petit enfant pourra mettre sa main sur le nid du cobra sans risquer de se faire piquer, que le loup et l'agneau, ben, ce n'est pas le loup qui va manger l'agneau, mais là, pourront s'entendre et demeurer ensemble. Vous voyez, cette harmonie retrouvée, celle que nous retrouverons au moment du retour du Christ. On a été créé dans cette harmonie, on a été créé par la bonté de Dieu, par l'amour de Dieu, voilà en quoi nous lui ressemblons, mais voilà aussi que dans ce jardin d'Éden, là où Dieu nous a placés, eh bien, il y a eu le démon. Le démon, qui est-il et que s'est-il passé dans son existence? Il a été créé comme un ange, donc avec beaucoup de bonté vis-à-vis de Dieu. Cependant, pour pouvoir accéder à la vie éternelle, parce que l'ange, il n'est pas comme nous ici dans le temps, l'ange, il est déjà dans l'éternité. Or, pour pouvoir aller et entrer en vie éternelle, l'ange, qui n'est qu'intelligence, puisque l'ange n'a pas de corps, tout à l'heure, dans notre jeu de mime, on demande, pour faire comprendre le mot ange, ben, homme ou femme, ben non, ni l'un ni l'autre. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a trouvé la réponse au mot ange. L'ange, c'est ni un homme de sexe masculin ni une femme, c'est un ange. C'est-à-dire un pur esprit qui n'a pas de corps, qui n'est qu'intelligence. Cette intelligence, il la reçoit de Dieu, il est illuminé par Dieu. Voilà comment le démon a commencé en tant qu'ange placé du côté de Dieu. Pour accéder à la vie éternelle, comme pour nous, voilà qu'il y a le régime de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire pour un ange, la foi? Ben, ça veut dire qu'il doit avoir suffisamment confiance en Dieu pour éteindre son intelligence et accepter de suivre Dieu dans la vie éternelle. C'est juste un bref instant où il doit manifester qu'il est vraiment du côté de Dieu. Et parce que Dieu ne nous a pas créés comme des machines ou des jeux vidéo déjà programmés à l'avance, avec un scénario que nous n'aurions qu'à exécuter, mais il nous laisse la liberté, eh bien il y a Lucifer dans les grands anges. Lucifer, ça veut dire le faiseur de lumière. Donc vous voyez que c'était un ange qui avait une grande et belle mission, puisque Dieu est lumière lui-même. Eh bien, il décide du coup, lui, par orgueil, de ne pas passer du régime de la foi, de ne pas éteindre tout ce qu'il est, sous-entendu, moi je n'ai pas besoin de Dieu pour me sauver, ni pour aller en vie éternelle. Et parce qu'il faisait partie des grandes hiérarchies d'anges, beaucoup d'anges ont décidé de suivre Lucifer, et du coup sont devenus alors des démons. Donc vous voyez, déjà au départ, il n'y a que le bien, et le mal est une privation de bien. Et bien voilà ce qu'il en est de même pour les démons. Dieu crée des anges, et voilà que parmi les anges, certains décident de désobéir. « Non serviam », dit le démon, « je ne servirai pas. Je ne servirai pas l'œuvre de Dieu, et je servirai encore moins les hommes. » Ah oui, parce que pour un ange, être dans l'adoration et la gloire de Dieu, ça va, mais venir servir des créatures qui lui sont inférieures, cela demande de l'humilité. Or, le démon se caractérise par l'orgueil. Pourquoi je raconte ça? Eh bien, parce que pour venir nous sauver du péché d'Adam et Ève, mais vous comprenez ce qu'est le péché d'Adam et Ève. Non seulement ils voient Dieu face à face qui descend dans le jardin, ils ont été créés et ils ne connaissent que le bien. Et voilà que le serpent, le démon figuré sous la forme du serpent, parce que Ève ne peut pas voir l'ange. Ève, comme nous, nous ne voyons que des choses matérielles. Eh bien, le démon se présente à elle sous la forme d'un serpent et vient la tenter. Et il va user de beaucoup de mensonges pour pouvoir arriver là où il veut. Alors, il va commencer à dire, dans ce fameux jardin, qu'il est interdit de manger de tous les arbres du jardin. Or, vous vous rappelez, Dieu avait juste interdit qu'il fallait manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, il ne fallait pas y toucher, ni l'arbre de vie. Alors déjà, Ève corrige. Ça, c'est déjà une première leçon pour nous. Il ne faut jamais répondre au démon. Parce que le démon, le Seigneur Jésus l'appelle le père du mensonge, il est très doué pour nous entourlouper. Donc là, elle a commencé à discuter avec le démon et il lui dit, si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme des dieux. Or, excusez-moi, Adam et Ève sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que c'est déjà le cas. Ils sont déjà comme Dieu. C'est-à-dire là, ils sont ici-bas sur la terre pour aimer et servir Dieu, et Dieu les invite après à entrer dans la vie éternelle. Donc, déjà, elle se fait un peu avoir parce qu'elle est déjà comme Dieu. Si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Non, vous ne connaîtrez pas la mort. Ben si. C'est pourtant ce qui va se passer. Et du coup, Ève va désobéir à Dieu. Et le paradoxe, c'est qu'elle connaît profondément Dieu, alors qu'en fait, ce démon, elle ne le connaît pas. Et parce qu'ils sont le père et la mère de tous les vivants, voilà pourquoi, par voie de génération, le père et la mère transmettent à leur enfant ce fameux péché, et le Seigneur vient nous en délivrer. Alors ça reste très bizarre, ce péché originel. Pourtant, Qu'est-ce qui est plus facile pour nous aujourd'hui après le péché, de faire le bien ou de faire le mal, d'insulter ou de prêcher la paix? Ben, naturellement, spontanément, on a plus envie de faire des choses qui sont interdites, même le petit enfant. Même le tout petit enfant, on lui dit « Non, il ne faut pas mettre les doigts dans la prise. » Ben non, parce que sinon, ça va mal se passer pour lui. Et ben pourtant, il va essayer de montrer à ses parents qu'il a deux doigts, qu'il pourrait peut-être rentrer dans les trous de la prise, pour essayer un peu de voir qui commande, qui ne commande pas. Vous voyez, en nous, il y a ça. À la fois une volonté de puissance, une volonté de désobéissance, une liberté un peu apparente de vouloir toujours choisir ce que l'on veut comme on veut. Alors ça, ce n'est pas forcément le péché, mais en nous, il est beaucoup plus facile de faire le mal, alors que faire le bien, ben, ça demande déjà beaucoup plus d'exercice. Déjà, un vieux philosophe, Platon, vous découvrirez ça en terminale, le rappelait dans un ouvrage en disant « Comment se fait-il que devant la vertu, donc l'action bonne, les dieux ont placé la sueur ? » Parce que vraiment, pour faire des actions bonnes, ben, il faut y aller. C'est beaucoup plus facile de faire le mal. Donc, le bon Dieu, une fois qu'il y a eu le péché d'Adam et Ève, décide que dans la descendance de la femme, puisque c'est par elle, par Ève, qu'a commencé le péché, dans la descendance de la femme, une d'entre elles viendra pour écraser la tête du serpent. Donc ça, c'est l'image de la femme qui doit venir écraser le démon. C'est l'image de la femme qui doit mettre à mal le mal lui-même. Cette femme, elle est préfigurée à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, mais nous la reconnaissons sous les traits de la bienheureuse Vierge Marie. Celle que Dieu annonce immédiatement après le péché originel, c'est déjà la bienheureuse Vierge Marie. La bienheureuse Vierge Marie, elle a été préparée pour une mission bien particulière. Nous l'entendons dans le récit de l'Annonciation, ces deux mots importants, concevoir et enfanter. Concevoir et enfanter notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair. Nos parents nous ont tous enfantés dans l'ordre de la chair. On comprend ce que ça veut dire, nous avons un corps. Bien que Dieu, eh bien lui, dès le premier instant de notre conception, a insufflé en nous une âme qui est éternelle. On n'est pas seulement un corps, on est un corps et une âme. J'ai reçu le corps, patrimoine génétique, on pourrait dire beaucoup de choses, de mon père et de ma mère, mais cette âme éternelle, je l'ai reçue directement de Dieu dès le premier instant de ma conception, dans le ventre de ma mère, qui est donc à la fois le sanctuaire de la vie, mais aussi de la vie divine, puisque c'est là que, dans le secret, Dieu, eh bien, me destine à la vie éternelle. La bienheureuse Vierge Marie, dès le premier instant de sa conception, dans le ventre de sa mère, Sainte Anne, eh bien, elle a été préservée justement de ce péché. Ce péché, on en prend une image, on l'appelle une tache. Alors vous imaginez une chemise bien blanche et tout d'un coup il y a une tache. Eh bien voilà ce qu'est le péché, si vous voulez, pour une âme. Eh bien la Vierge Marie, elle est préservée de ce péché. La tache, on appelle ça macula en latin. Et du coup on comprend le mot immaculée, celle qui n'a pas la tache, sous-entendu, du péché originel. Quand la Vierge se présente en disant « Que soyera immaculada », moi je suis l'Immaculée, c'est-à-dire je suis celle en qui ne se trouve aucun péché. Je n'ai jamais commis de péché. Mais la Bienheureuse Vierge Marie, ça va plus loin encore, comme Adam et Ève au moment où ils ont été créés. Non seulement elle n'a pas commis de péché, mais elle n'a jamais eu l'idée du mal. Or nous avons souvent des idées mauvaises. Nos parents peuvent nous répondre, même quand on était de petits-enfants, c'est facile de prendre l'exemple des petits-enfants parce qu'on voit bien comment on réagit, et des fois les parents doivent dire « baisse tes yeux effrontés » parce que les parents voient dans nos regards bien plus de choses qu'il y a à l'intérieur de nous. Soit on peut voir « mais tu es bien joyeux aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ?» ou alors on voit la tristesse, la solitude, la météo intérieure, chère à notre animatrice Gaëlle. Donc du coup, vous voyez, ce qui est vraiment le plus important de tout, c'est vraiment de comprendre que la bienheureuse Vierge Marie a été préservée par un privilège qui lui vient de Dieu, de toute trace du péché originel. Non seulement elle ne commettra jamais un péché, mais elle n'en aura même pas l'idée. Pourquoi un tel privilège ? Et la Vierge Marie a conscience d'être privilégiée parce qu'au jour de la visitation, elle dira dans le Magnificat « Toutes les générations me diront bienheureuse ». C'est-à-dire que cette joie qui habite la bienheureuse Vierge Marie, toutes les générations dont nous faisons partie en l'an de grâce 2022, eh bien, font partie de ceux qui louent la bienheureuse Vierge Marie. Ce n'est pas d'elle-même qu'elle aurait eu, si vous voulez, la force intérieure de lutter contre le péché. C'est un don qui lui a été fait par Dieu dès le premier instant de sa conception dans le ventre de Sainte-Anne. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait, c'est quelque chose qu'elle est parce que Dieu l'a voulu ainsi. De telle sorte, quand elle dit « Je suis l'Immaculée, je suis sans la tache du péché », eh bien pourquoi ? Parce qu'elle a une mission, celle que l'archange vient lui communiquer, concevoir et enfanter notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair. Je vous dis, nous, le péché, on le reçoit par voie de génération. Nos parents nous l'ont transmis en nous donnant la vie. Alors on en est lavé par le sacrement du baptême, bien qu'il en reste encore des choses en nous. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé que tout d'un coup on n'a plus l'idée du mal ou même le fait de faire des péchés. Mais voilà que déjà le Seigneur nous a déjà donné ce premier baptême en vue de la purification finale au dernier jour. Donc la Bienheureuse Vierge Marie, pour pouvoir mettre au monde celui qui allait venir nous sauver, ne devait pas elle-même être atteinte du péché originel. Bon, si on prend l'exemple médical, ça fonctionne. Si les parents sont vraiment malades de telle maladie, ben, du coup, ils vont la transmettre à leur enfant nouveau-né. Eh bien, la Vierge Marie, c'est pour ça que Dieu l'a préparée de toute éternité, pour pouvoir mettre au monde celui qui allait nous sauver du péché, a préservé la Vierge Marie pour que le Seigneur Jésus le Christ, en prenant notre chair, lui aussi, eh bien, ne commette jamais le péché. Le Seigneur Jésus, il nous ressemble en toutes choses. Il a eu ses parents, il a eu cette vie cachée ici-bas, il a appris à lire, il a appris à écrire. Vous imaginez pour Dieu, quand vous êtes tout-puissant, que vous êtes omniscient, vous savez tout ce qu'a représenté la naissance du Seigneur Jésus. Ne pas savoir prononcer un mot à part des areux, alors peut-être était-il très mystérieux et plein de grandes contemplations des mystères, mais enfin il ne peut pas parler. La Bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph vont lui apprendre à parler, vont lui apprendre à lire, très important dans la tradition hébraïque, d'apprendre à lire, parce que le petit garçon ou la jeune fille, à l'âge de 12 ans, ils vont avoir la majorité religieuse. Le petit garçon, on va amener les rouleaux de la Torah, un peu comme le rouleau de Topalin. Ça ne s'ouvre pas comme un livre, les rouleaux de la Torah. C'est-à-dire qu'on va devoir dérouler et à un moment donné, le rabbin va dire ben « maintenant, il faut lire ». Alors, il faut lire en hébreu ancien, sans qu'il y ait d'espace forcément entre les mots ou de majuscules ou de ponctuation. Donc, ça veut dire que là, il faut apprendre à lire à haute voix. C'est comme ça que le petit garçon fait sa bar mitzvah et qu'il devient un bon juif. Pourquoi je dis ça ? Ben parce que du coup, la Bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph, non seulement vont apprendre à lire à l'enfant Jésus, ils vont lui apprendre les saintes écritures et ils vont également toucher du doigt tout ce qui le concerne. Imaginons un instant quand la Bienheureuse Vierge Marie ou Saint Joseph ont fait lire au Seigneur Jésus la prophétie qui concerne la Vierge Marie chez Isaïe, qui dit « Voilà que la Vierge, donc il n'a pas eu de relation sexuelle, la Vierge deviendra mère ». Ben, on ne peut pas être l'un ou l'autre. Enfin, on est ou l'un ou l'autre. Soit on est mère, on n'est plus vierge parce qu'on vient d'avoir un enfant, soit ben, on est vierge, mais du coup, on ne peut pas avoir d'enfant. Eh bien, voilà la prophétie, un peu folle, si vous voulez, que Dieu a communiquée à Isaïe. Voilà que la Vierge deviendra mère. Eh bien, la Bienheureuse Vierge Marie, elle a reçu cette mission de Dieu de concevoir et d'enfanter. Concevoir est important. Parce que Dieu ne s'est pas servi de la Vierge Marie comme d'une mère porteuse. Alors j'ai besoin d'un four, vas-y, prends l'enfant, incube. Non, elle va le concevoir. C'est véritablement le Seigneur Jésus, le fils de la Vierge Marie. Il ressemble à la Bienheureuse Vierge Marie. Donc elle le conçoit, elle l'enfante, elle le met au monde. Et c'est ça, si vous voulez, le grand mystère que l'on appelle de la conception immaculée de la Vierge Marie. C'est une fête qui a lieu un 8 décembre. Pourquoi le 8 décembre ? Eh bien parce que c'est lié au 8 septembre. Le 8 septembre, c'est la nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. C'est une fête très ancienne, le 8 septembre. C'est la patronne de la Bigorre, notre diocèse, est placée sous la protection de la Vierge Marie dans le mystère de sa naissance. Dans les temps anciens, on n'avait pas forcément les mots de la foi pour savoir qu'est-ce qui s'était passé au moment de la naissance de la Bienheureuse Vierge Marie. Mais parce que c'était la mère du Seigneur Jésus, elle a toujours eu dans l'Église une grande vénération, un grand respect à son endroit. D'où l'instauration de cette fête. Que s'est-il passé ? On ne sait pas, mais c'est quand même la naissance de la Vierge Marie. Le 8 septembre. Et voilà que deux mois après, il y a le 8 décembre, où nous fêtons sa conception immaculée. Elle a été conçue immaculée, sans la tache du péché originel. Pourquoi ? Pour mettre au monde celui qui vient nous sauver du péché, notre Seigneur Jésus le Christ. Dans le message de Lourdes, puisque nous sommes des Bigourdans, nous retrouvons les mots immaculée et conception dans l'appellation de la dame. Là, je viens de vous parler le 8 décembre, il faut faire attention, on parle de la conception immaculée de la Vierge Marie. Conception, ça veut dire le moment où j'ai été conçu dans le ventre de ma mère, avec mon père et ma mère, de leur amour, voilà que j'ai été conçu. Donc, la Vierge Marie, le 25 mars 1858, à la 16e apparition, ça fait donc 16 fois que Bernadette a rencontré cette mystérieuse et très jeune demoiselle. Toute petite, Bernadette fait 1m40, elle dira toujours que la dame, cette demoiselle, elle arrivait à l'épaule, donc grosso modo 1m, et elle était très jeune. Bernadette en parlait toujours comme d'une jeune demoiselle. Et ensuite, parce qu'on disait, mais c'est pas très sérieux, une demoiselle, mieux vaut dire une dame. Ça a beaucoup plus d'assises, une dame. Mais Bernadette, elle parle, mademoiselle, et elle va lui demander comme ça, pas des misères, mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de bien vouloir me dire quel est votre nom ? Et elle lui a demandé pour la première fois le 18 février, elle lui a même demandé de lui écrire. Or, la dame a juste souri, n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. La Vierge Marie, elle vient pas pour mettre par écrit son nom, elle vient écrire dans le cœur de Bernadette une rencontre avec elle. Et c'est rencontre après rencontre que la bienheureuse Vierge Marie va inviter Bernadette à prier, et elles vont prier ensemble, notamment le chapelet en chacune des apparitions. Et puis, la dame, quand elle parle, elle va dire « Il faut beaucoup prier pour la conversion des pécheurs ». Voyez déjà un premier point. Celle qui se présente comme l'Immaculée, elle pourrait dire à la grotte « Bisque, bisque, rage, alors moi je suis sans péché, mais alors vous, mes pauvres amis, tant pis pour vous, non ?» Parce qu'elle est sans péché, elle vient au secours des pécheurs. Elle dit à Bernadette, quel est le chemin pour venir en aide aux pécheurs ? Eh bien déjà, il faut prier. Il faut demander à Dieu la conversion des pécheurs. Conversion, ça veut dire de changer. Que le pécheur change et reprenne le chemin, le bon chemin, celui de la vertu, celui de la vie avec Dieu. Ensuite, elle va dire, il faut faire pénitence. C'est-à-dire, quand je veux changer mon cœur et que je reçois le pardon de Dieu, mais je veux aussi montrer au bon Dieu, qui m'a pardonné un peu facilement en me donnant l'absolution, je veux lui montrer aussi quand même que je lui suis reconnaissant de ce pardon. Je fais pénitence, c'est-à-dire je pose un certain nombre d'actions pour lui manifester que je lui suis très reconnaissant. De même, on peut également aussi faire pénitence, c'est-à-dire offrir quelques sacrifices pour les âmes de nos défunts, la conversion de telle ou telle personne ou de telle personne qui nous voudrait du mal. Donc vous voyez, la Vierge, elle ouvre vraiment un chemin, elle est sans péché, mais elle a un grand souci des pécheurs. De même, elle va instaurer le pèlerinage de Lourdes. Elle va dire, il va falloir venir ici, à la grotte de Lourdes, et il va falloir y venir en procession. Processio en patois, ça veut dire aussi pèlerinage. Donc du coup, il va falloir venir en ce lieu en pèlerinage. Pourquoi la Vierge veut qu'on vienne en pèlerinage ? Comme toute mère, elle est heureuse de réunir chacun de ses enfants, et elle a choisi le lieu de Lourdes pour que ses enfants du monde entier viennent. Mais lorsqu'elle révèle enfin son nom, elle ne dit pas à Bernadette « Je suis la Vierge Marie ». Elle dit « Que soyera Immaculada Conception ». Bernadette est très heureuse ce jour-là d'avoir enfin reçu le nom de la dame. Très heureuse parce que c'est, je vous ai dit, la 16e apparition. Or, la dame lui avait demandé le 18 février de venir pendant 15 jours. Et Bernadette, qui avait compté à partir de la première apparition du 11 février, s'est dit « ça y est, ça fait 15 apparitions, ma mission est terminée, je ne saurais pas qui est cette dame qui m'est apparue ». Et voilà que dans la nuit du 25 mars, ce n'est pas une date anodine. Si vous comptez 25 mars par rapport à Noël, il y a 9 mois. C'est la fête de l'Annonciation, c'est le jour où elle a entendu de l'ange « vous allez concevoir et enfanter notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair ». Et voilà que la Vierge Marie, au pied de la croix, eh bien, elle a reçu la suite de sa vocation maternelle. Il ne s'agit pas seulement de mettre au monde l'enfant Jésus et de ne plus s'occuper de rien, mais il s'agit également de devenir la mère de l'Église, la mère de tous les fidèles. Voilà pourquoi le Seigneur, en haut de la croix, il lui reste quelque chose de très précieux sur la terre, c'est sa mère, et il va dire à sa mère, « Femme, voici ton fils », en désignant Saint Jean, le disciple bien-aimé. Il dit femme et pas maman ou mère. Pourquoi ? Parce que c'est le nouvel Adam qui sur le bois de la croix offre sa vie pour le pardon de nos péchés, vous le comprenez, qui s'adresse à la nouvelle Ève, « Femme, voici ton fils ». Et à partir de cette heure, voilà que Saint Jean a pris Marie chez lui, comme tout chrétien. C'est-à-dire que la Vierge Marie, au pied de la croix, eh bien, elle a reçu vraiment la plénitude de son rôle. C'est nous concevoir et nous enfanter. Pas dans l'ordre de la chair, ça c'est notre mère, avec le concours de notre père, qui nous ont enfantés à la vie. Mais elle ne va pas nous engendrer dans l'ordre de la chair, mais elle vient pour nous concevoir chacun et nous enfanter dans l'ordre de la grâce. L'archange, d'ailleurs, ne l'a pas appelée Marie. Il a salué en elle la pleine de grâce. Nous, on dit dans la prière, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Parce que pleine de grâce, ça reste très mystérieux. C'est qui, pleine de grâce ? Eh bien, c'est Marie. Donc, on a rajouté le prénom. Mais il n'utilise pas ça comme un adjectif qualificatif. « Je vous salue, gracieuse Marie. » Non, non, je vous salue, pleine de la grâce de Dieu. Voilà comment l'ange l'a appelée, comblée de cette grâce de Dieu. Et la Vierge Marie, elle ne va pas se garder égoïstement cette grâce, ce serait un péché. Au contraire, elle est là pour dispenser les grâces que son fils lui a données. Et donc du coup, quand elle répond à Bernadette, « Que soyera Immaculada Conception ?», ben Bernadette, elle a rien compris. Non seulement elle n'a rien compris, mais en plus, Conception, pour elle, c'était très difficile à dire. Et donc, elle s'est dit, elle a une très mauvaise mémoire, hein, 14 ans, elle n'a jamais été à l'école, si ce n'est depuis le mois de janvier, donc là, on est en mars, donc vous voyez, ça ne fait pas grand-chose. Du coup, elle se dit, sur tout le chemin du retour, d'habitude, pour elle, c'est une grande action de grâce, le chemin du retour, le silence, se remettre de ses émotions, parce qu'elle a vu la dame, parce que mystiquement, il s'est passé beaucoup de choses en elle dont elle ne pourrait pas dire qu'il s'est passé ça et ça, elle ne peut pas le parler, c'est dans le cœur à cœur. Du coup, elle se dit, pendant tout le chemin, je vais répéter le nom de la dame, parce que sinon, je vais l'oublier. Et donc, il y a des gens qui rapportent le témoignage qu'ils entendaient une Bernadette qui faisait que baragouiner quelque chose sur la route. Et le conception, c'est dur à dire, quand elle arrive au presbytère, elle ne sait pas trop comment le prononcer, ce mot. Et alors le curé entend l'appellation de la dame, que soyera Immaculada Conception, c'est quand même quelqu'un qui a fait des études. 4 ans auparavant, il y a eu la proclamation du dogme de la conception immaculée de la Vierge Marie, le 8 décembre 1854, donc du coup c'est quand même tout neuf, on est en 58, ça fait 4 ans qu'il y a eu la proclamation du dogme. Et le curé comprend très bien que je suis l'Immaculée Conception, c'est la Vierge Marie. Il va tiquer un peu en disant on ne peut pas s'appeler comme ça, c'est pas un nom, peu importe. Lui comprend. Il comprend, il est vraiment saisi d'émotion, il congédie gentiment Bernadette et lui tombe à genoux et se met à pleurer. Mais Bernadette, elle se retrouve à la porte, elle a fait sa commission, c'est tout ce qui lui importe pour elle. Mais qu'est-ce que c'est une conception ? Alors ça, elle ne le sait pas. De même, elle fait le chemin pour aller voir l'aumônier de l'hospice, de l'école où elle est, l'abbé Paumian. Elle lui fait la même révélation. L'abbé prend le temps de la réflexion, il congédie Bernadette, il réfléchit, il va aller voir monsieur le curé, ils vont aller en parler, puis Bernadette, elle a fait sa commission, puis alors, elle n'a toujours rien compris. C'est que le soir, quand elle a l'habitude d'aller chez Emmanuelite et Jean-Baptiste Estrade, au coin du feu, qu'elle raconte l'apparition du matin, ce sont devenus des amis, les Estrades, que Jean-Baptiste Estrade lui dit, depuis le temps qu'on te le dit, Bernadette, c'est donc la Vierge Marie. Et là, Bernadette comprend. Immaculada Conception, c'est la Vierge Marie. Alors la Vierge, qu'est-ce qu'elle dit ? Je suis l'Immaculée. On comprend. Immaculée, je suis conçue sans la tâche du péché originel. Bon. Mais si on enlève ce mot Immaculée, parce que Bernadette, elle a donné l'insistance par sa maladresse sur le mot Conception. Et c'est ça le problème de l'appellation de la Dame de Lourdes. Pourquoi elle peut dire qu'elle est sa conception ? Est-ce que je suis moi-même ma propre conception ? Non, j'ai été conçu par mon père et par ma mère. De même en est-il de la Vierge Marie. Saint Joachim, Sainte Anne sont les parents de la Vierge Marie. C'est de leur amour qu'est née la bienheureuse Vierge Marie. Donc elle n'est pas en train de dire « je suis ma propre origine ». Qui peut dire ça ? Seulement Dieu, qui est lui-même le commencement et la fin. Nous, on a tous un commencement, une fin. On a des parents, on reçoit la vie de nos parents. Qu'on reçoit, on ne peut pas remonter ainsi à l'infini, c'est une des manifestations de l'existence de Dieu. Je ne peux pas remonter toujours à l'infini, si je fais mon arbre généalogique, nous avons Justine qui a ses parents, qui ont eux-mêmes leurs parents qui sont vos grands-parents, qui ont eux-mêmes leurs parents qui sont vos arrière-arrière-grands-parents. On ne peut pas remonter à l'infini, à un moment donné il faut sortir pour manifester une cause qui est extérieure à cette vie que nous partageons. Cette vie, c'est Dieu qui l'a donnée en façonnant Adam et Ève devient la mère des vivants. Voilà pourquoi la Vierge Marie, elle est aussi la mère de l'Église, parce qu'elle est cette mère pour chacun d'entre nous dans l'ordre de la grâce. Dans la Vierge, elle ne peut pas dire « je suis ma conception ». En revanche, je vous ai dit, pourquoi il y a ce mot « conception ». Ce mot « conception », il est au cœur de l'évangile de l'Annonciation. Et elle ne va pas seulement enfanter, elle va concevoir. Eh bien, elle veut chacun nous concevoir, nous façonner dans le secret de la prière. En bonne mère qu'elle est, elle veut nous concevoir pour être comme elle, immaculée, c'est-à-dire sans péché. Pour cela, elle a préparé le chemin en instaurant le pèlerinage de Lourdes. Qu'est-ce que c'est le pèlerinage de Lourdes ? On met ses pas dans ceux de Bernadette, ou plutôt ses sabots dans ceux de Bernadette. Du coup, c'est le chemin tracé. Allez à la source, boire et vous laver. Quelle est la source ? La source, c'est le cœur du Christ. La Vierge, elle va demander une chapelle. Alors, pourquoi demander une chapelle ? Parce que qu'est-ce qu'on y fait dans la chapelle ? Dans la chapelle, on proclame l'Évangile. L'Évangile, il est prêché. Dans l'Église, on reçoit les sacrements, on reçoit l'Eucharistie, on reçoit le sacrement de la confession. Voilà pourquoi la Vierge, elle demande la chapelle. Elle veut vraiment nous concevoir et nous enfanter. Voilà donc cette belle fête que nous avons connue jeudi dernier, le 8 décembre. Alors, il y a des traditions, Gaël pourra vous en parler, notamment dans la ville de Lyon, c'est la tradition des Lumières. Ici, à Lourdes, ça a été, alors que la ville était quand même assez endormie du point de vue des pèlerins, ça a été vraiment quelques jours, 48 heures, où il y a eu à nouveau beaucoup de pèlerins d'Italie, de France, de notre diocèse, notre province, qui se sont réunis pour célébrer la Bienheureuse Vierge Marie. Et donc, quand on fête sa propre mère, vous savez, il y a la fête des mères, Noël, l'anniversaire de notre mère, mais toute la famille est heureuse de fêter sa maman, eh bien, l'Église est toujours très heureuse de célébrer et d'honorer la Vierge Marie. Et je terminerai par un point important. Dieu aurait pu nous sauver sans la Vierge Marie. Il aurait pu envoyer un ange. Il aurait pu envoyer son fils directement sans qu'il ait eu besoin d'une maman ou de je ne sais quoi. Il aurait pu lui façonner un corps, puisqu'il n'en a été créé de rien. Il n'était pas obligé de passer par une femme, une mère, 9 mois, apprendre à lire, à écrire, ne pas savoir parler quand on est le Verbe de Dieu, c'est un peu embêtant. Donc il y aurait eu des choses. Non, il a voulu passer par la Bienheureuse Vierge Marie. Et l'Église est toujours pleine de gratitude. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que pour venir nous sauver, non seulement le Seigneur Jésus est devenu homme, comme chacun d'entre nous, mais aussi il est passé en ayant une mère. Il a été mis au monde. Et bien voilà que la Bienheureuse Vierge Marie est pour nous un secours important. C'est à la fois la mère du Seigneur Jésus, mais elle est devenue au pied de la croix notre mère à chacun. C'est pourquoi elle reçoit les confidences de nos prières. C'est pourquoi elle vient aussi déverser toutes ses grâces.
Ave, Ave, Ave Maria, Ave Maria.